Papa, non, en 2024, créer un site web n'est plus une galère, c'est même devenu ultra simple, et notamment grâce à des solutions comme Squarespace. Squarespace est la plateforme tout en un pour permettre aux entrepreneurs de se démarquer et réussir en ligne, et ce, quelle que soit la taille de leur activité. Vous allez voir, tout y est. Vous pouvez vendre vos produits physiques ou services en un temps record. Vous avez des centaines de templates de sites web canon dans tous les domaines. Vous pouvez créer vos campagnes email. Vous pouvez même vendre votre propre formation en ligne. Donc, si vous voulez donner à votre business toutes les chances de se développer avec un outil à la fois performant et très simple d'utilisation, eh ben, je ne peux que vous recommander d'aller sur le site squarespace.com. En plus, à l'occasion de ce partenariat, Squarespace vous offre moins 10% sur votre première commande de site web ou de domaine avec le code Pauline. Alors, n'attendez plus et rendez-vous sur squarespace.com, code Pauline. Mes chers amis, bonjour, ici Pauline Léniaud et je suis ravie de vous accueillir pour un nouvel épisode du podcast qui décoiffe. Vous allez voir, aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir avec moi la créatrice de robes de mariée et créatrice de la marque éponyme Rim Harodaki. Je suis sûre que si vous êtes une femme dans la zone des 30-40 ans, vous connaissez Rim Harodaki parce que ses robes de mariée, en fait, ont complètement, sincèrement transformé le secteur en apportant une touche beaucoup plus rock, beaucoup plus sensuelle à ce monde qui était, il faut le dire, parfois un petit peu poussiéreux. Rim nous parle dans cet épisode de ses origines syriennes, de ce que ses parents lui ont apporté comme valeur. Elle nous parle avec beaucoup de sincérité, j'ai trouvé, des périodes difficiles qu'elle a pu vivre en tant que fondatrice de son entreprise, à la fois le fait de réussir à trouver sa place en tant que créatrice et que femme dirigeante d'entreprise, c'est-à-dire apprendre à comprendre les sujets autour de la comptabilité, autour de la gestion, mais aussi de bien s'entourer, puisque ce n'est évidemment pas toujours facile et que ça a été l'un des sujets sur lequel Rim a dû beaucoup travailler. Enfin, nous avons également parlé, bien sûr, de sa passion créative et de ce qui l'inspire au quotidien. Je remercie Rim d'avoir participé à cet épisode avec autant de sincérité. Et puis, petite dédicace aussi à Jérémy, qui travaille avec Gémio à notre boutique de Lyon et qui nous a fait cette belle introduction. Jérémy, un grand merci à toi. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec Rim Harodaki. Bonjour Rim.
Bonjour.
Je suis enchantée d'être avec vous aujourd'hui. Merci. En plus, on voit déjà derrière vous quelques dessins, quelques croquis. Ça donne envie et ça tombe très bien parce que figurez-vous que je voulais commencer par parler de processus créatif. C'est toujours très mystérieux, je trouve, un processus créatif. Je suis sûre que vous avez plein de choses à nous dire là-dessus. Et je trouve qu'il y a aussi beaucoup d'images projetées. C'est-à-dire que quand on n'est soi-même pas créateur, on se dit, mais comment est-ce que les gens ont des idées, quoi? Comment est-ce qu'on crée une collection de robes? Comment est-ce qu'on imagine, en fait, ces choses? Et donc, je serais très curieuse de savoir comment vous travaillez vos inspirations. Est-ce que vous êtes plutôt du style solitaire à vous enfermer dans une chambre pendant une semaine? Est-ce qu'au contraire, vous adorez vagabonder, aller chercher l'inspiration un peu partout via le voyage, via des rencontres peut-être? Bref, je serais très curieuse de savoir comment vous créez.
Alors déjà, merci de me recevoir, Pauline. Effectivement, ce processus créatif, il est mystérieux autant pour moi que pour vous. C'est pas quelque chose que je contrôle en général et je dirais que j'ai pas de règles au regard de ça. C'est quelque chose qui va être assez instinctif au final et ça va dépendre de mon humeur, des saisons, du type de collection, de ce qui se passe dans ma vie aussi, parce que c'est très personnel au final. Et je vais autant avoir besoin de justement m'échapper, d'être seule pendant un moment, que de partager cela avec mon équipe ou même avec mes amis ou même sur une terrasse de café. Il y aura vraiment pas de règle. Chronologiquement, je dirais que la première chose que je fais en général, c'est me mettre dans ma bulle, effectivement. Et j'essaye de comprendre et de savoir quelle histoire j'ai envie de raconter. Pour moi, une collection, c'est une histoire. C'est toujours lié un peu à ce qui se passe dans ma vie, les émotions que je vais ressentir, les choses que je vais pouvoir observer, vivre à travers mes voyages, ça toujours et encore, à travers ce que je vois, les femmes que je vois dans la rue, mes amis, les filles que je vois sur une terrasse, comment elles sont habillées, comment elles vont se mouvoir, etc. Et je vais vouloir raconter une histoire sur une femme, une typologie de femme à un moment donné.
Ensuite, je suis désolée de vous interrompre. Va être une très mauvaise habitude que je vais avoir, mais de temps en temps, je vais vouloir creuser des questions avec vous. Est-ce que vous auriez un exemple pour que justement on se dise, ah mais c'est alors ça serait quoi comme histoire?
Pour une collection, par exemple, que vous auriez fait ces derniers temps.
Pour une collection, la dernière en date qui me vient, c'est la collection de la femme, justement. Et la collection de la femme, justement, c'était ce mélange de femmes fatales, affranchies, qui est évidemment le fil directeur de notre ADN, hein, ça toujours et encore. Mais justement, je m'étais posé un été pour regarder la piscine avec Romy Schneider. Et sa désinvolture et cette liberté qu'elle pouvait avoir et la façon dont elle s'habille et dont elle bouge avec juste une petite robe en satin jaune en encolure américaine, le fait que Alain Delon lui défasse le chignon, tout ça, ça m'a fait vibrer, ça a fait écho en moi et j'ai vu cette femme justement tellement libre et tellement quelque part un peu fatale aussi et en même temps naturelle que j'ai eu envie de lui recréer une ode et un hommage en fait. Et du coup, c'est devenu le fil directeur après pour tout le reste et j'ai été ensuite évidemment me perfuser de toutes ces femmes, de toutes ces icônes et donc je me suis perfusée de films, de livres, je me suis évidemment mise sur Pinterest et j'ai essayé de trouver toutes les photos qui soient le plus représentatives possible de cette femme justement vraiment affranchie, sexy et assurément sexy et qui s'assume sexy. Et ça m'a pas dérangé justement d'aller sur ce terrain-là avec même une pointe et un soupçon d'érotisme et j'ai essayé de pousser ça jusque-là.
Ce qui est clairement très iconoclaste dans le monde de la robe de mariée où on est quand même plutôt dans du romantisme et dans quelque chose d'assez sage.
Absolument, absolument. Justement, toute la complexité et la dualité de la marque, finalement, c'est de savoir justement et clairement doser cet équilibre entre sexy, sensualité et romantisme, parce qu'on s'adresse quand même à des filles qui ont envie et qui ont ce désir de romantisme ce jour-là. Nous, on va essayer justement de les rendre encore plus femmes et de s'assumer en tant que femmes et justement de dire au revoir à cette petite fille un peu romantique, bucolique, presque trop attendue et un peu cliché aussi, on va pas se mentir. Donc, le romantisme, il va venir via d'autres choses, d'autres sujets. On va garder quand même des matières nobles et, comme vous dites, icônes des codes de la mariée. Mais les coupes et l'attitude et surtout le ton d'une campagne et la façon dont on va mettre en scène le produit, c'est ça qui va faire toute la différence au final.
Alors, je vous ai complètement interrompu tout à l'heure. Vous disiez donc la première phase, c'est cette idée, cette histoire. Ensuite, j'ai cru comprendre que la deuxième phase, du coup, c'est la recherche, c'est ça? C'était toute cette recherche iconographique?
Exactement, ça va être une recherche iconographique. Moi, je travaille beaucoup en musique et j'ai toujours besoin, dans l'histoire, le storytelling que je vais raconter, je vais avoir besoin de mettre mon casque et de me mettre dans ma bulle et de trouver des musiques ou une musique qui va représenter justement cette histoire-là. Pour la femme, par exemple, je me suis inspirée d'une artiste qui s'appelle Sabrina Claudio, qui est très down-tempo, qui s'inspire beaucoup de l'univers aussi de Châté. Et donc, du coup, justement, il y a toute cette sensualité, cette extrême féminité et cette douceur aussi, quelque part, en même temps, qu'on ressent dans sa musique. Et j'ai trouvé que ça faisait totalement le lien, naturellement, avec la collection que j'avais envie de créer.
Et alors, après, j'imagine que la réalité nous rattrape, puisqu'il y a un moment donné où il faut aussi produire, faire des patrons, réfléchir au prix, ces choses-là. Et donc, ça, c'est la partie où l'équipe joue plus un rôle avec vous, c'est ça?
Oui, tout à fait. Bien évidemment, j'ai un atelier, j'ai un responsable du développement, j'ai une responsable de production. Elles vont tout mettre en œuvre, justement, pour que cette vision et ces envies soient retranscrites au mieux, tout en respectant, évidemment, les contraintes de prix et de marge qu'on peut avoir comme dans tout business. Et ça, c'est quelque chose qui vraiment va arriver dans un second temps parce que je vais d'abord m'asseoir et évidemment faire les premiers croquis. Je vais laisser poser. Je vais revenir sur mes croquis, les retravailler. Et ensuite, je vais évidemment les donner à mon atelier, donc aux modélistes qui vont leur donner vie finalement en 3D. Et là, on va faire les premiers essayages. Et c'est là qu'on va rentrer dans le vif du sujet, autant pour respecter la vision que pour respecter évidemment nos contraintes prix.
Et alors là, j'ai une question, parce que vous savez, donc j'ai créé une marque de joaillerie, et en fait, on a aussi évidemment beaucoup de contraintes de coûts, notamment, hein, parce que l'or coûte assez cher, les diamants encore plus. Et donc, je voulais vous poser une question au sujet de ce dosage entre la vision initiale et les contraintes. À quel moment est-ce qu'en fait, vous cédez à la contrainte, et à quel moment est-ce qu'en fait, vous dites, non, là, en fait, ça va coûter plus cher, ou ça va être plus difficile à produire, ou on va devoir faire des petites quantités. Est-ce que peut-être vous auriez un exemple d'une fois, justement, où vous avez dû faire un arbitrage dans un sens ou dans l'autre?
Absolument. Alors déjà, je dirais que ça va dépendre de la gamme de la collection. Nous, on a trois lignes. On a la ligne prêt-à-porter, qui effectivement est en ligne sur notre site e-commerce, et qui va être en moyenne entre 1 000 et 2 000 euros. Ensuite, on va avoir la ligne cérémonie, ce sont des robes entre 4 et 6 000 euros. Et ensuite, vous aurez la ligne plus couture qui démarre à 7 000, 8 000 euros et bien au-delà. Selon la typologie du modèle, clairement, les choix ne sont pas les mêmes et les compromis ne sont pas les mêmes. Ça, c'est pour démarrer. Donc, sur le prêt-à-porter, ça va être quelque chose d'un petit peu plus compliqué parce qu'on est sur une ligne un peu plus facile. C'est destiné au mariage civil. Et là, clairement, on essaye d'être, on va dire, le plus commercial, le plus facile et le plus facile possible et évidemment le plus rentable possible parce que c'est clair que sur un petit produit comme ça d'appel, ça va être compliqué de complètement s'emballer. Maintenant, le produit best-seller qu'on a sur cette ligne-là, qui s'appelle donc Patsy, c'est une combinaison pantalon dont personne ne voulait entendre parler au début parce que toutes les filles qui se mariaient civilement, elles voulaient qu'une petite robe ou le petit tailleur. Ben oui. Elles étaient vraiment dans cette dynamique-là. Et quand on est arrivé avec une combi, c'était un petit peu c'était un peu différent et un peu ça les a un petit peu perturbés, on va dire. Donc c'est pas un produit qui a tout de suite été accepté. En revanche, moi j'y ai beaucoup cru et c'est vrai que j'y ai ajouté tous les codes du mariage, c'est-à-dire que je lui ai mis une traîne en dentelle, ça consomme pas mal et la dentelle coûte très cher, en plus elle est made in France. Et effectivement, ces métrages de dentelle qui font tout le côté spectaculaire de la combi n'étaient clairement pas l'ami de la marge et de notre rentabilité quand on l'a créé. Mais visuellement, esthétiquement, au niveau de l'ADN et de ce que ça véhiculait comme message de ce qu'on avait envie de transmettre, comme message, vision de la maison, elle avait tout ce qu'il fallait. Elle avait le côté unique, singulier, le côté pétillant, en même temps quelque chose de très féminin, le romantisme, mais en même temps le côté affranchi, sexy, moderne. Enfin, il y avait vraiment, et ce côté aussi un peu boyish, garçon manqué, qui est vraiment propre à la marque. Et donc, du coup, quand on a créé ce produit, certes, au niveau de la marge, c'était pas génial parce qu'elle consommait pas mal de dentelle. On n'avait évidemment pas encore les quantités puisque c'était une innovation, mais on y a cru et on s'est quand même lancé et c'est devenu une icône de la maison. Donc, on est plutôt fiers et on le regrette pas parce que maintenant, on a les quantités et largement et on s'y est retrouvé au final. Donc, ça a pris son temps, ça a pris 2-3 ans, mais au final, on s'est complètement retrouvé là-dedans.
Ben c'est hyper intéressant et je vous remercie Rim d'avoir partagé ça parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes justement qui se mettent des barrières, vous savez, mentales en se disant non mais en fait là ça ne marchera jamais ce produit et en fait je vois que finalement ça a pris son temps mais absolument. vous êtes arrivé au bout du compte à ce que vous souhaitiez. Et pour revenir sur cet exemple, qu'est-ce qui a fait que vous y avez cru et que vous avez eu envie de vous accrocher? Parce que surtout quand dès le démarrage ça marche pas bien, c'est dur quand on croit à quelque chose et qu'on se dit je le lance machin. Et bon, ça met 2 ans à venir, c'est long. Même plus,
ça a mis 3 ans. Honnêtement, on en a vendu peut-être 5, et maintenant on en vend 10 par jour. Donc c'est assez lunaire quand même. Non, ce qui m'a fait y croire, alors déjà l'instinct, parce que c'est assez viscéral, c'est quelque chose qui est vraiment dans mon ventre. Déjà dès le croquis, j'ai senti que je tenais quelque chose. Je pourrais pas vous expliquer quoi. Il y a quelque chose de presque irrationnel dedans. Hein. C'est vraiment très instinctif. Je me suis dit, j'ai pas vu ça. Ça me plaît. Je porterai. Et si je porte, et si ça me plaît à moi, ça va plaire à mes amis et à mes clientes. Parce que je me projette toujours dans leur jour J, dans ce qu'elles ressentent, ce dont elles ont envie, etc., etc. Ensuite, une fois que j'ai vu la première toile et que j'ai vu le modèle essayé, j'ai tout de suite eu un wow effect quand la mannequin est sortie de la cabine. Donc, à partir de là, si ce wow effect je l'ai et que je vois aussi le regard de mon équipe, parce que je travaille qu'avec des jeunes femmes de 30 ans et plus, leur regard aussi m'a beaucoup dit et je les prends comme référence. Et elles se gênent pas, en général, pour me dire qu'elles y croient pas ou quelque chose.
C'est bien.
Ça va pas.
S'entourer de personnes qui vous disent la vérité. Très bien.
Non, personne se gêne. Et surtout, on est tous un peu perturbés quand il y a quelque chose qui fonctionne pas. Là, on est sortis, on était genre, canon. Enfin, vraiment, genre, c'est top, on adore et tout. Et on essaye toujours d'être critique et on se pose des questions. Chacun se fait l'avocat du diable de l'autre. Mais ça, est-ce que tu crois que ça va marcher? Ça, est-ce que tu crois que c'est pas trop décolleté? Et là, la transparence, etc., etc. Et en fait, il n'y avait pas de, on n'a pas rechallengé le modèle. Il était tout de suite évident. Et quasiment du premier coup. Et à partir de là, on s'est dit, allons-y. Et ça n'a pas été, on ne tergiverse pas si longtemps en général. C'est que si j'y crois, si mon instinct me dit d'y aller, je préfère tenter et désolé de le dire familièrement, me planter que de regretter. Je préfère prendre des risques. Ça fait partie aussi de notre ADN chez Rima Rodaki. On prend des risques, on tente des choses. On essaye toujours de s'inscrire comme ceux qui prennent des risques et qui annoncent des innovations et tentent des tendances jamais vues dans la mariée au niveau de notre marque. Si ça marche, tant mieux. Si ça prend plus de temps, c'est pas grave. Et si ça marche pas du tout, on tourne la page et on passe à autre chose et on retient les leçons de ce qui n'a pas marché du tout. Mais avant de se dire que ça n'a pas marché du tout, en général, on attend au moins 2 saisons. Parce qu'on sait qu'il y a toujours un temps d'adaptation et de réceptivité de la consommatrice. On sait que la mariée, elle est dans une dynamique, elle sait à quoi s'attendre avec nous, elle a vu beaucoup de choses chez nous. Donc, le temps qu'elle s'y habitue, nous, on lance déjà quelque chose de nouveau. Le temps qu'elle se réhabitue, il faut laisser le temps au produit. Et ça, c'est effectivement des discussions avec la direction générale, les commerciaux, etc. Et en général, j'estime avoir assez de caractère et de poigne pour imposer cette vision.
Ça se sent, ça se sent. En tout cas, beaucoup de capacité à motiver, à donner envie, ça c'est certain. Rim, quand même, juste pour terminer sur ce sujet, parce que moi-même, en joaillerie, c'est un peu la même histoire. Les choses mettent beaucoup de temps avant de marcher. Dis ça parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui nous écoutent, qui sont assez impatients. De manière générale, qui me disent « Ah bah moi, ça fait 3 mois que j'ai lancé, ça marche pas. » Je caricature un peu, mais franchement, c'est le cas. Et je comprends, parce que c'est vrai que quand on a travaillé longtemps sur quelque chose, il y a une frustration, en fait, du temps. Et donc, est-ce que vous pourriez, si on file la métaphore de cet exemple, nous dire, en gros, au bout de 3 ans, pourquoi, selon vous, est-ce que tout d'un coup, ça s'est mis à marcher? C'est qu'en fait, vous étiez un peu trop tôt, c'est parce qu'en fait, il a fallu continuer à faire du marketing, c'est parce que les clientes, en fait, ont besoin de répétition. Enfin, qu'est-ce qui s'est passé, selon vous?
Un peu de tout ça, à vrai dire. C'est assez intéressant ce que vous dites. Moi, j'ai totalement conscience que j'arrive toujours un petit peu trop tôt. C'est assumé, j'ai envie de dire. Parce que moi-même, je me lasse assez vite des choses et j'aime bien mettre des coups de volant au niveau créatif et je déteste rester enlisée dans quelque chose qu'on a connu et revu, qui a été copié aussi, on va pas se mentir. On est dans un domaine où ça se passe beaucoup, surtout qu'on est sur une monocouleur avec des matières quand même assez redondantes. Enfin, chaque créateur, on n'a pas moult choix quand même. Hein. On est toujours sur les mêmes références. Donc, c'est à nous aussi de nous imposer avec notre style et d'être disruptif. Donc, le côté en avance, ça, il est assumé. Donc, je sais que ça peut être ça. Le marketing, très évidemment et très clairement, cette combi, elle a eu aussi un sacré coup de pouce, par exemple, parce qu'elle a été portée par une influenceur américaine et elle a été commandée par le site Net-à-Porter. Donc ça, plus ça, l'a rendue très visible. Et évidemment que la cliente, quand elle voit ça, elle se sent d'un coup rassurée. Elle se dit, si c'est là, c'est que je peux y aller. Ouais. Elle a besoin d'avoir cette espèce de gage, de permission que ça va pas être too much et que ça se porte à un mariage. Donc oui, elle s'est démocratisée, ça c'est sûr et certain. Donc il y a le marketing, ça c'est sûr. Et ensuite, il y a évidemment la mariée 1, puis la mariée 2, puis plein de mariés, puis plein de photos. C'est-à-dire qu'il y a une très grande différence entre le fait de la montrer sur un mannequin et le fait de le montrer sur une vraie mariée. Moi, j'ai toujours ce temps entre les deux où la fille, on va dire, assume parce qu'elle l'a vue sur une autre fille. C'est assez frustrant pour moi d'ailleurs, je vais pas vous mentir, parce que parfois je leur dis mais... allez-y, vous n'avez pas besoin d'attendre.
Vous créez votre mode.
Allez-y, lancez-vous la tendance. Et je ne sais pas, elles ont peur, et surtout le jour de leur mariage, parce qu'elles sont regardées, elles sont vues, elles sont scrutées, elles sont analysées. C'est les photos qui vont rester toute une vie. Et c'est l'impact le plus grand de leur vie qu'elles vont laisser au niveau vestimentaire, finalement. Et c'est ce qu'elles dégagent, ce qu'elles racontent à travers le vêtement. C'est effectivement clé. Maintenant, c'est vrai que parfois, c'est une petite frustration, parce que j'aimerais bien qu'elles fassent le grand saut un petit peu plus rapidement et qu'elles aient pas besoin d'attendre que tout le monde le porte. Mais j'imagine que ça, c'est la mode en général. C'est pas que chez moi, je pense.
Rim, merci. En tout cas, vous parlez avec tellement de passion de ces sujets. Franchement, ça fait sourire. J'ai le sourire en vous écoutant. Et alors, justement, je voulais comprendre d'où vient cette passion et si ça vous va, revenir en arrière à votre enfance. Parler justement de là où vous avez grandi, de votre famille, vos parents. Comment était la petite Rim? Est-ce que vous étiez déjà une petite fille ou une jeune femme aussi passionnée? Enfin, racontez-moi un peu ça.
Alors totalement, non, ça me dérange pas du tout de revenir à ça, au contraire, j'en suis très fière. Alors moi j'ai grandi donc à Paris, je suis née à Paris. Mes parents donc viennent de Syrie, je suis d'origine syrienne, ils sont arrivés en France il y a 50 ans. Et c'est vrai que j'ai eu beaucoup de chance parce qu'ils m'ont fait baigner dans la culture et dans l'art en général. Mon père était directeur général de l'Institut du monde arabe, donc c'est vrai que les expos, la culture, c'était quelque chose qui était totalement présent à la maison. Ma sœur est musicienne, elle est pianiste, elle a fait le conservatoire, donc depuis toute petite, la musique classique fait partie aussi de ma vie et de voilà, de mon éducation, je dirais artistique, sensorielle, etc. Et ça clairement, je dirais inconsciemment ou consciemment, éduquer ma sensibilité et mon regard sur le monde, sur la mode, sur les femmes et sur l'art en général. La culture était noble et on n'en avait pas honte. Et quand j'ai dit que je voulais être styliste et je l'ai annoncé assez tôt à mes parents, je devais avoir 8 ou 9 ans, au contraire, ils m'ont à fond encouragée et soutenue dans ce choix-là. Depuis l'âge de 3-4 ans, je tiens le crayon, je dessine, je suis obsédée par ça. J'ai un décalage assez conséquent avec ma sœur, donc c'est vrai qu'elle est partie de la maison assez tôt, donc j'étais assez souvent seule. Et c'est vrai que m'enfermer dans ma chambre des heures pour m'occuper, sachant que j'avais des parents aussi qui travaillaient beaucoup et qui étaient indépendants et qui m'ont appris à devenir moi-même indépendante, je me suis mise au dessin très tôt et dans mon univers et dans mon imaginaire très tôt. Donc avec un fond de musique, parce qu'il y avait toujours ma sœur qui traînait dans le coin, qui jouait de la musique, qui jouait du piano, ou mon père qui écoutait de l'opéra ou des concertos ou des symphonies. Donc, toujours sur un fond de musique classique. Donc, la musique présente 1000 fois à la maison et enfermée dans ma chambre, dans mon monde, à créer, imaginer d'abord des tenues pour mes poupées, hein, c'est un peu cliché, et ensuite pour les femmes de ma famille, donc ma sœur et ma mère. Et les deux étaient très coquettes, adoraient la mode, regardaient les défilés et les émissions sur Paris Première. Donc depuis toute petite, elles me traînaient dans les boutiques des couturiers. Alors, elles n'en avaient pas les moyens, parce que je viens d'un milieu assez modeste finalement, mais ma sœur avait besoin de trouver des robes pour ses concerts, donc je l'accompagnais. Ma mère adorait la mode, et c'est vrai qu'elles étaient toutes les deux très coquettes et très stylées, très sophistiquées, et ça a clairement éduqué mon œil. Elles s'habillaient très très bien toutes les deux. Donc j'adorais ça, et ça m'a clairement inspirée.
C'est drôle ce que vous dites aussi quand vous parliez du fait que vous vous enfermiez dans votre chambre pendant des heures parce que parfois, bah voilà, il fallait s'occuper aussi. Et c'est quelque chose, en fait, que j'ai beaucoup lu ces derniers temps, qui est que, bah maintenant, en fait, les enfants s'ennuient moins, ont moins de temps livrés à eux-mêmes, ouais. Parce qu'en fait, bah, il y a la socio, il y a la télé, etc. Et du coup, en fait, on perd ce temps qui est un temps où on trouve un moyen de s'occuper, en général, de manière créative. Et il y a des personnes qui lisent, il y a des personnes qui racontent des histoires, il y a des personnes comme vous qui apprennent à dessiner. Et du coup, j'invite les parents qui nous écoutent à laisser leurs enfants s'ennuyer un peu.
Oui, garçon 5 ans moi-même, et quand il dit qu'il s'ennuie, je l'accepte très difficilement. Je lui dis, bah, c'est très bien de s'ennuyer, va dans ta chambre. il invente ses histoires, c'est très bien.
Donc, si j'ai bien compris, Rim, tout de suite la mode, en fait, quand même. Hein. C'est vraiment, ouais. Ça, c'est quelque chose. Il y a eu un élément déclencheur qui fait que vous avez senti que c'était ça, votre appel.
Il y en a eu plusieurs, je dirais. Il y a très clairement le fait que c'était perçu comme quelque chose de noble et d'assumer chez moi, parce que justement je viens d'une famille orientale, et malgré tout ce qu'on peut penser, moi les femmes chez moi, elles adoraient s'habiller, elles étaient très coquettes et elles étaient sexy, justement très sexy, très féminines, et c'était assumé. Donc j'ai adoré justement d'être entourée de toutes ces femmes fortes, et je parle aussi de mes tantes, mes cousines, etc. Tout adorait ça, et ça m'a fait rêver, inspirer, parce que j'admirais ces femmes-là, justement, libres. Voilà, elles fumaient, elles buvaient. Alors, c'est pas ça. Mais quand j'étais petite, de loin, je me disais, oh là là, c'est incroyable. Orientale, mais quoi. Donc, c'était super. Et ensuite, évidemment, j'étais une petite fille. Je suis devenue assez vite pulpeuse, on va dire. J'étais pas une fille toute mince, j'étais assez ronde quand j'étais petite. Et c'est vrai que d'imaginer des vêtements et me balader, je me créais un idéal et je soignais un petit peu mes petits complexes, en fait, quand j'étais adolescente. Et donc, quand je me suis mise au papier avec mes crayons, c'est vrai qu'à l'école et au collège, les enfants peuvent être assez cruels, et j'ai pu parfois être un petit peu moquée, un peu raillée. Bon, comme dans tous les enfants, je le vois pas comme quelque chose de mal, je me considère pas comme une victime, parce que ça a forgé qui je suis. Et ça m'a donné une force, au contraire, parce que je me suis dit, mais je ne suis pas cette fille victime qui subit les moqueries, et j'en ai pourtant souffert. Je suis cette fille qui va créer pour les femmes et qui va les rendre toutes sublimes, et je pense que ça a été le vecteur clé de ma passion et de ma vision. Je me suis dit, Je veux habiller toutes ces femmes, je veux les rendre belles, peu importe d'où elles viennent, qui elles sont, milieu modeste, leurs origines, enfin voilà, et leur même leur physiologie, je veux les rendre sublimes, je veux qu'elles sentent belles, je veux qu'elles aient confiance, je veux leur redonner le pouvoir. Et ça, c'était vraiment quelque chose qui est inhérent à ma personnalité et mes choix depuis l'âge de 10 ans, très clairement.
Je vous remercie d'avoir partagé ça.
Avec plaisir.
Quelles sont les valeurs que vos parents vous ont transmises, qui ont le plus marqué vos choix, justement, et votre vie?
Pour commencer, la gentillesse, la bienveillance. C'est quelque chose avec lequel je dois vivre avec. J'ai beau essayer d'être parfois un peu cruelle, un peu dure, un peu plus dure aussi dans le business et même en tant que patronne ou manager, j'ai un cœur tendre. C'est quelque chose. Ils sont comme ça et je me vois pas créer, aimer les femmes et parler à leur cœur sans avoir ce cœur tendre moi-même. J'ai besoin de cette bienveillance et de cette gentillesse. Ils me l'ont transmise et j'essaie de la transmettre autant à mon équipe qu'à mes clientes à travers mon travail. Cette bienveillance, c'est tout. Voilà.
Rim, j'aimerais justement parler un peu plus de l'entreprise. Et je crois, si je ne me trompe pas, que vous avez commencé par travailler chez Riquel, qui a été aussi une grande période d'inspiration. Mais que vous lancez suite à ça un premier atelier Rim Arodaki, mais qui, si je ne me trompe pas, ne fonctionne pas de la manière dont vous vouliez. Qu'est-ce qui s'est passé à cette époque?
Alors, ce qui s'est passé, c'est que je manquais cruellement d'expérience et que j'ai sauté dans le vide sans connaître ni savoir tout ce dont j'avais besoin. Ce qui s'est passé, donc, chez Riquel, j'ai été évidemment tellement inspirée et émerveillée par tout ce que j'ai pu voir et travailler aux côtés de Sonia, sa sœur aussi, Danielle, qui était aux accessoires, et sa fille, Nathalie. Encore une histoire de femme libre et sensuelle. Ça m'a évidemment passionnée et fascinée. Une fois partie de là-bas, j'ai fait un peu de freelance, je me suis essayée à plein de petites choses, mais j'avais du mal à trouver un CDI en toute franchise. C'est un milieu assez compliqué, on va pas se mentir. Et j'ai toujours eu la conviction que j'allais avoir ma propre marque et ma propre entreprise. J'en avais envie. J'avais envie d'avoir cette liberté-là et j'avais quelque chose à raconter. Je savais pas encore quoi, mais j'avais quelque chose à dire. J'ai pas creusé assez longuement et je me suis un peu mise à mon compte prématurément parce que je me suis dit je vais créer une marque et ça ira. J'ai pas cherché un concept. Je me suis pas dit qu'il y avait besoin d'une vision. Je me suis pas dit qu'il y avait besoin d'une idée ou d'une différenciation. Je me suis juste dit que de faire des jolis vêtements avec du style et un petit peu de talent, au final, ça suffirait. Grosse erreur. J'avais pas non plus du tout les armes business pour ça. Moi, j'ai fait une école du mode, j'ai pas fait d'école de commerce. Et j'avais pas non plus assez d'expérience ni dans la production, dans la finance, dans le business, dans la stratégie. Enfin, j'avais rien de tout ça. Et je me suis lancée aussi un peu toute seule. Donc, je me suis pas entourée. J'ai fait ça juste avec les quelques contacts et les quelques connexions que j'avais d'ateliers de ci, de là. Et clairement, alors... Il y avait des prémices parce que j'ai senti que ça avait plu. J'ai fait les salons. J'ai fait le salon Atmosphère à l'époque, à la Porte de Versailles, le Tranoï. J'ai réussi à avoir... Alors, j'ai réussi à faire 3 collections au total, chacune d'une douzaine de modèles, ce qui est très light. Mais bon, j'ai fait avec les moyens que j'avais. Donc, j'ai dû mettre toutes mes économies là-dedans. Mon papa m'a un petit peu aidée à l'époque, mais bon, c'était assez symbolique. Et c'est vrai que... Voilà, j'ai trouvé 3-4 acheteurs. Je m'en rappelle d'un à New York, un au Japon et un à Londres et un à Dubaï. Tout était sold out, donc ça a pris, ça a plu. Ils m'ont recommandé, mais j'avais ni la trésorerie, ni les fonds pour recréer une collection, pour l'étoffer, pour présenter. J'ai eu un agent qui faisait showroom et presse à la fois, qui m'a gentiment rendu service pour des pacotis à l'époque, rue Déjeuneur, je me rappelle d'Eric qui m'a soutenue à cette époque. Voilà, enfin, ils ont tous essayé de me soutenir un peu avec les moyens du bord, mais clairement, il manquait quelque chose. Il manquait de l'expérience, il manquait de la maturité, il manquait un concept. Ça, très clairement, c'est quelque chose que j'aurais dû creuser un petit peu plus.
Parce que Rim, je suis désolée de vous interrompre, c'était des robes de mariée à l'époque ou c'était du prêt-à-porter?
Pardonnez-moi, c'était du prêt-à-porter, mais j'étais déjà quand même dans... C'était un peu lié parce que c'était des petites robes de soirée. C'était, on va dire, quand même de la cérémonie, des vêtements de fête, que je dirais. C'était du grand soir, voilà. Mais c'était pas du grand soir cocktail, paillettes, etc. C'était du grand soir, petite robe, un peu habillée, Voilà, le prix moyen était de 800-900 euros, donc avec un Made in France, autant vous dire que c'était suicidaire. C'était compliqué de faire tout ça. Donc j'ai mis un coup de clé, j'ai mis la société en sommeil. Je me suis dit, je reviendrai quand je serai plus mature, plus prête, que je serai plus armée. Il faut que j'aille voir autre chose. Donc je me suis remise dans le freelance et je suis allée travailler pour d'autres. Et c'est là que justement j'ai travaillé pour une marque méconnue. Qui n'a pas de nom particulier, mais qui avait sa clientèle française. Et j'ai fait du freelance pour eux, pour du grand soir et de la mariée. Et c'est juste en travaillant dans la mariée, alors eux faisaient des choses assez classiques et conventionnelles finalement, mais en me disant, mais tiens, il n'y a pas grand-chose. Et c'est vrai qu'en parallèle, j'ai des copines, moi j'arrivais dans ma trentaine, et j'ai des amies qui, elles aussi, commençaient à se marier, commençaient à s'intéresser à ça, et qui m'ont demandé de les accompagner justement faire des essayages de robes de mariée. Et apparu une créatrice à l'époque que j'admirais, que je trouvais qui faisait un très beau travail, qui s'appelait Delphine Manivet, à part elle, qui avait vraiment amené quelque chose, tout le reste, je trouvais ça très, très, pardonnez-moi du terme, poussiéreux et assez classique. Et effectivement, je retrouvais pas le lien entre ma copine ou mes copines qui avaient beaucoup de style, qui adoraient la mode ou qui travaillaient dans la mode et qui avaient vraiment beaucoup d'allure. À cette époque, c'était des Parisiennes. Et justement, c'est ces boutiques de robes de mariée qui vendaient que des robes de Cendrillon. Ouais. Pas du tout en accord avec ce qu'elles ressentent, ce dont elles ont envie, etc. Et je me disais, mais elle est où cette marque qui justement fait le lien avec ces filles-là et qui leur parle et qui va justement s'adresser à elles et comprendre ce dont elles ont envie tout en étant une mariée. Et c'est là que, du coup, j'ai réactivé la société et je suis partie dans mon autre concept. Voilà.
Mais c'est hyper intéressant parce que je pense que on a bien souvent, quand on lance une entreprise, toujours cette impatience, hein, cette notion de se dire, bah en fait, je vais lancer, ça va marcher tout de suite. Et là, finalement, votre exemple est assez merveilleux de ce point de vue-là, parce que je trouve que ça montre en fait que parfois on prend une première direction, c'est pas tout à fait la bonne. Ça veut pas dire qu'il faut abandonner, mais ça veut dire qu'il faut parfois mettre en stand-by, continuer différemment. Et honnêtement, je trouve que l'exemple est assez dingue, parce que avoir quand même le recul de mettre en sommeil la société, faire cette pause et donc ne pas s'acharner quand même. Vous avez eu ce recul, quoi.
Oui. Bah déjà, financièrement, on va pas se mentir, j'avais besoin de gagner ma vie. Encore une fois, j'avais envie d'être indépendante et je voulais pas subir quoi que ce soit ou d'être au bord du gouffre. Donc, je me suis arrêtée avant que ce soit un drame, justement, et je me suis dit, OK, va te refaire financièrement, va gagner ta vie, va apprendre, va observer. J'essaye toujours de garder un peu ça comme fil directeur hein, dans mes projets, l'humilité. Je me dis que j'ai pas inventé l'eau chaude, et même aujourd'hui, même si la société fonctionne très bien et que on est, comme on peut dire, leader ou établi, c'est jamais fini pour moi. Donc justement, se renouveler, se remettre en question et garder toujours en tête que voilà, l'humilité, c'est vraiment ma guideline numéro un.
Et alors, quand vous relancez pour la deuxième fois Rimarodeki, est-ce que cette fois, ça se met entre guillemets à marcher tout de suite, ou là aussi, faut prendre son bâton de pèlerin? Certes, vous aviez compris qu'il fallait faire de la robe de mariée, en tout cas, c'était votre différenciation forte. Mais comment se passent les premiers mois?
Alors, les premiers mois, j'ai d'abord créé un blog, pour être tout à fait franche, parce que je me suis dit, je vais d'abord, il faut que je me fasse connaître. Et Instagram n'était pas encore là. Il y avait Facebook, évidemment, et il y avait l'ère des blogs. Donc, c'était la grande époque, Garance Doré et compagnie, et même Chiara Ferragni qui lançait tout juste The Blonde Salad. Ouais. Donc, c'était vraiment à cette époque-là. Et je voyais ces blogueuses, évidemment, vivre de leur métier de blogueuse. Moi, je voulais pas devenir blogueuse. Par contre, je me disais que le blog était un super vecteur, un super moyen pour transmettre et pour mettre en scène mon travail, mes inspirations et mon univers. Donc, j'ai créé ce blog en racontant mes histoires. Donc, j'ai partagé mes croquis, mes premières toiles, mon univers, mes inspirations. Donc, c'était autant par des textes que par des visuels. Je faisais des mood boards. Et assez vite, j'ai eu une audience. Parce que justement, je parlais de mariage et personne n'en parlait à l'époque. C'était le début des blogs mariage aussi, mais ils parlaient que de mariage. Alors que moi, je parlais vraiment de la mode dans le mariage. Et en fait, j'ai une autre blogueuse de mariage qui a parlé de moi, qui m'a amené aussi du trafic. Et puis, j'ai eu mes premières clientes comme ça qui sont venues sur mon blog et qui m'ont dit « Eh, coucou, je me marie. Est-ce que ça te dit de faire mon projet de robe ?» Et en fait, je me souviens exactement du chiffre parce que c'est devenu un peu mon chiffre porte-bonheur. J'ai 14 clientes l'année 1 qui m'ont fait confiance alors que j'avais pas de collection, j'avais pas de book, j'avais rien. J'avais juste un univers et un blog et qui se sont senties proches de ça et qui sont venues donc me voir. Et j'ai réalisé des pièces uniques pour elles. Et j'avais toujours pas d'argent, hein. Donc, en fait, leurs acomptes m'ont servi à financer tout ça. Donc, c'était ça l'avantage avec la mariée, c'est que on se dit toujours, ah, faut pas penser à l'aspect business. Bah, si, le fonds de roulement, je l'avais pas. Donc, comment j'allais faire? Bah, j'allais prendre 50% d'acompte. Leurs 50% d'acompte m'ont clairement aidé à acheter la matière première, à payer les couturières, etc. J'ai construit, j'ai conçu leurs robes. Et ces 14 robes, une fois qu'elles se sont mariées, j'avais toujours pas les moyens de créer une collection. Et je leur ai dit, est-ce que je peux vous les emprunter après votre mariage pour les shooter sur un mannequin? Et c'est
incroyable.
Devenu mon premier lookbook.
Ouais. Incroyable comme histoire. Tellement entrepreneuriale, j'adore.
Exactement. Oui, oui, c'est vrai.
Il faut aller chercher les ressources là où elles sont.
C'est vrai. Et c'était hyper intéressant parce que une fois que j'ai mis en scène, parce que je savais déjà ce que je voulais faire, j'ai pris ma première mannequin, je m'en rappelle, Constance, qui n'était pas mannequin d'ailleurs, mais qui était une fille magnifique, et je l'ai mise pieds nus, les cheveux lâchés, un peu décoiffés, avec du col noir. Justement, j'avais déjà cette vision de femme libre et affranchie, et je l'ai mise sur un fond gris, et je me suis inspirée d'un shooting de Patrick de Marchelier pour Vogue. Et je l'ai mise en scène avec ses robes blanches de façon très pure, très minimaliste. Et là, pour le coup, ça a tout de suite pris. Et c'est là que l'aventure a démarré une fois que ces photos ont été communiquées.
Eh bien, c'est inspirant. J'aimerais quand même parler aussi des parties un petit peu plus difficiles parce qu'en faisant mes recherches sur vous, j'ai vu que vous êtes créatrice. Oui. Et maintenant aussi leader et businesswoman. Mais ce n'est pas forcément si facile à concilier. Déjà parce que comme on en parlait au début, c'est la boucle est bouclée, il y a souvent justement parfois des contradictions. Mm-hmm. Et puis d'autre part, parce qu'en fait, il faut apprendre un autre métier quand même. Est-ce que vous pourriez nous parler aussi de cet apprentissage de devenir la dirigeante de Rima Rodaki?
Vous avez combien de temps?
Oh, j'ai tout mon temps.
Alors, c'est pas encore fini. On va pas se mentir, c'est jamais fini. Encore une fois, c'est un processus. Ça a commencé depuis le premier jour et c'est encore là aujourd'hui. En revanche, c'est vrai qu'il y a eu un moment assez phare il y a quelques années parce que on va dire que les premières années où je me suis lancée, et là je parle vraiment dans le business de robe de mariée, je suis arrivée alors avec une vision, des rêves, cette vision de la femme, cette vision de marque. Je savais exactement où je voulais aller de ce côté-là. Donc, je savais à quoi je voulais que mon produit ressemble, je savais à quoi je voulais que l'image de marque ressemble, les campagnes, la façon dont je communiquais sur les réseaux, comment moi aussi j'allais me présenter à mes clientes. Tout ça, je le savais, c'était vraiment clair comme de l'eau de roche. Ce que je savais pas, en revanche, c'est que je ne pouvais pas être que créatrice. Et c'est vrai que pendant des années, je me suis cantonnée à ce rôle de créatrice / visionnaire. J'ai totalement mis de côté le côté chef d'entreprise, businesswoman ou leader. Je pensais que ça ne me revenait pas. Je pensais aussi que je n'avais pas cette légitimité parce que j'avais pas fait d'école de commerce, j'avais pas la formation, j'avais pas travaillé dans une grosse boîte. Et je pense que j'avais une forme de syndrome de l'imposteur. Et je me suis presque, je me suis mise un peu au niveau des gens avec qui j'ai travaillé à cette époque. Je me suis jamais positionnée au-dessus d'eux. Alors je dis pas qui. Je suis pas en train de dire qu'il faut être la big boss et se comporter comme une patronne des spots, etc. C'est pas ça, mais la hiérarchie compte au final. Et c'est vrai que j'avais pas cette légitimité et je me disais, mais je suis que créatrice. Mmh. Et donc, les gens avec qui je vais travailler, je vais leur donner les clés du camion et c'est eux qui vont gérer toute la partie stratégie, business, développement, finance, marge, retail, etc., etc. Et ça a été une grosse erreur. Ça a été une grosse erreur. Alors, qui est aussi totalement ma responsabilité en partie parce que c'était inconscient, mais c'est vrai que je ne pouvais pas me cantonner qu'à ce rôle de visionnaire. Il fallait que je mette le nez dans les chiffres, il fallait que je comprenne mes contraintes de production, il fallait que je comprenne ma marge, il fallait que je comprenne la stratégie, les retailers, ce qu'ils attendaient de moi, comment moi aussi je devais leur imposer ma vision et mes conditions commerciales, etc., etc. Et tout ça, c'est quelque chose où j'étais alors, je ne vais pas dire aux abonnés absents, mais j'étais figurante. Voilà. Et moi, je me disais, non, mais moi, c'est vraiment la com, la com, le produit, la vision, et puis tout ça, c'est à vous. Et au final, ça a donné pas que des bonnes choses, parce que c'est vrai que j'étais avec des gens, en tout cas, j'avais les moyens à cette époque de prendre des gens plutôt inexpérimentés, qui n'avaient pas toujours de très bonnes intentions, qui n'étaient pas toujours là pour les bonnes raisons, pour être honnête avec vous. Ils voulaient le côté fame, sexy de la marque, mais personne ne voulait au final se remonter les manches et vraiment je dirais avec loyauté, ferveur et engagement, emmener la marque vraiment là où on avait envie. Et donc, je pense qu'il y a eu, voilà, il y a eu des erreurs de parcours, il y a eu de ma faute comme de la leur, et c'est vrai qu'on j'ai dû revoir totalement ma façon de penser et de fonctionner au sein de l'organisation. Et c'est vrai que je me suis pas non plus entourée de, enfin moi je n'étais pas DG de ma propre boîte, j'étais présidente mais j'étais pas DG et j'ai pas eu des DG particulièrement honnêtes. Et c'est vrai et que
c'est important de le dire parce que c'est plus fréquent qu'on ne croit et surtout absolument. Pour des créateurs ou des créatrices qui se disent bah je ne suis pas capable et donc qui mettent un peu qui font l'autruche quoi, qui mettent la tête dans le sable. Mais en fait, il faut quand même comprendre un minimum son propre business.
J'ai fait ça. Ça a été mon erreur. J'ai naïvement été, j'ai fait partie de cette équipe-là de créatrices qui ont fait l'autruche.
Qu'est-ce qui a fait que vous en êtes sortie? Qu'est-ce qui a été le déclic? Vous vous êtes dit, bah, je reprends le contrôle de ma boîte, en fait, quoi.
Alors, en toute sincérité, il y a quelques années, c'est devenu la pagaille au niveau des process, au niveau du people. J'ai eu mon premier enfant. Et ça n'a pas été facile parce que c'est arrivé au même moment où il y a eu une forme de pagaille dans la boîte et de rébellion aussi, je dirais. J'ai trouvé que les gens, ne me respectaient plus et ne respectaient plus mes envies et ma vision. Et finalement, j'étais devenue plus que figurante, quoi. J'allais la boule au ventre le matin au travail et je me disais, mais je suis plus chez moi. Ils ont pris les clés du camion et ils m'ont volé mon projet, quoi. Et donc, Je suis rentrée chez moi un jour et mon conjoint, enfin on n'est pas encore mariés, on est fiancés mais on n'est pas encore mariés, et père de mon fils, Greg, je lui ai partagé tout ça et lui qui venait du business et qui avait travaillé plus de 10 ans dans la grande conso et qui lui-même était entrepreneur et chef d'entreprise, je lui ai partagé mon ressenti, je lui ai dit c'est la pagaille, ça va plus, je sens que ça part en vrille autant au niveau humain qu'au niveau même business, qu'au niveau marge. Enfin, il y avait plein de choses, il y avait tout à revoir. Il y avait plus de process, c'était une croissance. En plus, on était au moment où on avait des indicateurs de plus 30 chaque année. Donc là, la boîte grandissait de façon organique chaque année. Enfin, c'était dur à suivre. Et en même temps, à l'intérieur, en interne, j'avais une équipe qui savait pas ce qu'elle avait à faire, quoi. Et c'était aussi de mon fait parce que je les avais laissés en roue libre, quoi. Et je lui ai demandé de l'aide. Et il est venu faire un audit. Et depuis, il est devenu DG de la boîte et il m'accompagne chaque jour. Et ça n'a absolument plus rien à voir. Et nous sommes un super duo et je lui en serai éternellement reconnaissante parce qu'il m'a formée, il m'a challengée, il m'a forcée, il m'a sortie de ma zone de confort. Ça a été très difficile. Il m'a forcée à devenir une réelle chef d'entreprise et ça a été douloureux et long comme parcours. Mais oui, il m'a tapé sur les doigts. Il m'a dit c'est aussi ta faute, c'est aussi ta responsabilité. Et maintenant, il faut que tu te retrousses les manches et que tu ne sois pas que créatrice. Il faut que tu manages les gens, il faut que tu les vois en one-to-one, il faut que tu fasses des réunions, il faut que tu leur demandes des comptes, il faut que tu sois là à tous les entretiens d'embauche, il faut que tu as ta patte, tu as ta vision, ton ADN, tu les perfuses, il faut que ce soit à tous les étages. Tu peux plus juste être la créatrice dans sa tour qui crée, qui fait des belles choses. Il faut que tu y ailles, quoi. Ça y est, c'est ton moment. Et là, j'ai totalement changé ma vision et ma perception et je dirais que...
Même votre vision sur vous, sans doute. Et même votre vision sur vous-même.
Ouais, complètement. Et maintenant, je me vois plus comme justement cette chef d'entreprise, cette businesswoman. Et je ne dis pas que je saurais tout faire, parce que clairement non. Et chacun sait ce qu'il a à faire et comment il a à le faire. En revanche, je suis au courant et au carrefour de tout. Et il me tient régulièrement, voire constamment informé de tout. Et voilà, il n'y a plus rien qui m'échappe. Et encore heureux. Voilà.
On oublie quand même que l'entrepreneuriat, la création d'entreprise, ça nécessite pas mal de courage. Hein. Et là, je trouve que c'est un très, très bel exemple parce que quand ça fait peur, quand on n'a pas envie, bah, vous avez eu le courage, en fait, d'assumer qu'il y avait un problème, déjà, premièrement. Absolument. Et ensuite, de reprendre la main. Encore une question un peu difficile, même si je connais tous les succès et l'audience aussi de Rima Andaki, mais vous avez évoqué à plusieurs reprises le fait que vous avez un enfant. Et je crois avoir lu quelque part que le monde de l'entrepreneuriat et puis la création de cette marque qui a si bien marché, ça a nécessité franchement des sacrifices. Alors peut-être pas lié à la maternité, mais de manière générale, on va dire, sur votre santé peut-être, je sais pas, les amis, etc. Là aussi, est-ce que vous pourriez nous dire un peu des choses telles qu'elles sont vraiment sur ce sujet?
Des sacrifices, il y en a évidemment, et encore aujourd'hui, il y en a eu à tous les étages. Il y en a eu au niveau de la famille, parce que dans la famille, tout le monde ne comprend pas toujours vos choix et le pourquoi vous faites ça. Il y en a certains qui peuvent se sentir exclus, isolés de vos succès et de ce qui vous arrive. Donc, c'est très difficile de continuer à leur dire que vous êtes là pour eux et que vous les aimez malgré tout, mais que vous avez besoin de vous exprimer et de faire tout ça et que ces succès ne vous ont pas changé. Donc, c'est plus le regard des gens qui change. C'est pas tant vous. Moi, j'ai pas changé. Je me sens toujours la même petite fille avec ses doutes, ses peurs et ses craintes et cette remise en question constante et cette très forte exigence qu'elle a envers elle-même. En revanche, le regard des autres, il a changé parce que fatalement, ça amène son lot de paillettes et de wow effect, hein, surtout depuis qu'il y a les réseaux et tout ça. Donc, vous avez un semblant de micro-notoriété. Je dis bien micro parce que je suis pas médecin, j'ai pas changé la face du monde, mais il suffit que voilà, votre marque soit un petit peu populaire, qu'on vous reconnaisse un peu dans la rue ou qu'on cite votre nom, qu'on vous dit oh, la créatrice de Mariée, j'adore. C'est le regard des gens qui change. Et la plus grosse difficulté, c'est pas les gens à l'extérieur finalement, c'est pas les gens inconnus ou que vous connaissez rapidement, c'est les gens qui vous sont plus proches. Et moi j'ai trouvé que c'est avec mes plus proches collaborateurs qui sont devenus des amis et avec aussi des membres de ma famille que ça a été le plus difficile. J'ai même assisté à des ruptures et des clashs très douloureux. À cause de ça, parce qu'on s'est plus compris et effectivement, leur regard avait changé chacun a sa vérité et c'est très difficile et bien évidemment que j'ai souffert et bien évidemment que ça a été des longues journées et nuits de doutes et de remises en question, mais j'ai jamais perdu le cap, j'ai toujours su pourquoi je le faisais et je savais quelles étaient mes priorités. Mes priorités, c'était évidemment cette entreprise, parce que pour moi, c'est pas une entreprise, c'est pas le succès, c'est pas l'argent, c'est pas tout ça, c'est ce avec quoi je m'exprime, c'est mon moyen d'expression et c'est vital, c'est quelque chose, je respire grâce à ça, c'est vraiment quelque chose de tellement puissant et d'instinctif que peu importe, on va dire, les parasites ou les petites choses que j'avais autour, même si c'était des gens que j'aime et que j'aime encore aujourd'hui, hein, je pouvais pas les laisser me détourner de ça parce que c'était trop précieux. Et ensuite, évidemment, la maternité, ça a été un des plus gros challenges pour moi, je le dis en toute franchise. J'ai même fait un baby blues à un moment. Enfin, ça n'a pas été le baby blues tel que certaines femmes peuvent le connaître, mais j'ai eu du mal à trouver ma place et à savoir comment j'allais jongler entre ce rôle de maman, parce que ça a totalement bouleversé ma vie, dans le bon sens, mais on ne m'a pas prévenue, quoi. Et c'est vrai que mes copines ne m'ont pas prévenue. Et j'avais cette entreprise et ces 25 personnes qui travaillaient pour moi et qui m'attendaient, et qui étaient assez jeunes aussi. Et du coup, de composer avec ces deux rôles-là, j'ai pas pu prendre de réel congé maternité. En plus, mon petit avait des petits soucis de santé quand il est né. Enfin, il y a eu plein de choses qui étaient très compliquées. Et Dieu merci, j'ai eu l'aide de ma maman, de ma famille, de mon papa. Enfin, c'est des gens qui ont été très présents pour moi. Et heureusement, j'ai eu l'aide de Greg, mon conjoint, quoi, parce que c'est toute seule, ça aurait été très difficile. Et je me suis appuyée sur moi-même, mais je me suis appuyée aussi beaucoup sur eux. Il faut savoir s'entourer. Pour moi, la partie des sacrifices, elle est inhérente. C'est-à-dire que si vous êtes entrepreneur, si vous imaginez que vous n'aurez pas de sacrifices, même dans les personnes les plus proches, c'est une illusion. C'est une illusion. On est très seul au final, très très seul. Et alors comme ça donne pas très envie. Hein. On va dire oh là là, mon Dieu, c'est pas fun et tout. Mais quand je dis seule, c'est pas de la solitude imposée. Elle est choisie. Elle est choisie. On sait ce qu'on a à faire. On sait ce qu'on a à raconter. Et il faut s'accrocher parce que finalement, quand on a une passion, ça nous nourrit. Et donc les gens qui restent pas ou les gens que vous perdez au cours de votre parcours, c'est que c'était des gens avec qui voilà, vous deviez pas vivre le reste de votre aventure et de votre chemin. Et c'est comme ça.
Je vois ce que vous voulez dire et j'ai vécu des choses similaires. En fait, je trouve que l'entrepreneuriat, comme c'est très intense, ça crée des filtres. C'est-à-dire qu'en fait, ceux qui avant, ça passait et en fait, on se posait pas trop de questions. Bah là, en fait, quand c'est aussi intense, aussi dur, ça passe plus. Mais par contre, ceux qui étaient là, qui étaient forts, qui étaient alignés, qui étaient présents, ceux-là, ça renforce les liens, quoi. Donc ça crée absolument un peu un espèce de.
Ouais. Mais c'est des gens qui doivent avoir des valeurs totalement en adéquation avec les vôtres. Si ça fonctionne pas, c'est que vos valeurs sont fondamentalement différentes. Et Dieu sait, encore une fois, ça veut pas dire qu'il y a pas d'amour et d'attachement avec toutes ces personnes-là. Si on s'est entendu et on s'est aimé à une époque et qu'à un moment on se sépare et que nos chemins se séparent, c'est que voilà, c'est pas qu'il y a plus de sentiments, c'est qu'il y a vraiment ouais une vraie différence de valeurs et de ouais. Voilà.
Rime, pour repartir sur quelque chose de plus frais et plus positif. Je voulais ensuite parlerai de mon crime, mais je voulais vous parler de votre vision. Est-ce que vous pourriez, si c'est pas trop confidentiel, me dire quel est votre grand rêve pour Rima Odaki? C'est quoi finalement cette vision, la vision qui vous fait vibrer? Personne ne sera au courant, ça reste entre nous.
Alors je vais pas révéler mes projets parce que j'ai un projet qui m'a toujours animée depuis toujours, et si je le révèle pour le coup c'est un peu risqué.
Je cherche pas le scoop, mais plus de l'inspiration et comprendre. Non, voyez.
Ce que je peux vous dire, c'est que mon rêve et ma vision, c'est pas que de créer des jolies robes. Voilà. Je m'arrêterai pas là, dans le sens où, alors ça veut pas dire que j'ai envie de me diversifier, parce que, et ça, mon conjoint me le répète suffisamment, la diversification c'est aussi dangereux. Il faut faire attention. Non, c'est pas tant de se diversifier, c'est plus de qu'est-ce que je vais avoir envie de raconter au travers de cette marque. Et en fait, créer des robes, c'est ce que je sais faire, et c'est ce qu'on sait faire, et c'est notre cœur de métier. En revanche, j'ai envie d'aller plus loin, et j'ai déjà commencé un petit peu en créant un e-shop et en créant une plateforme pour justement que les filles trouvent tous les produits et toutes les choses dont elles ont besoin pour leur mariage, mais aussi avant, mais aussi après. Et moi, cette notion de ce que j'appelle bridal journey, donc l'aventure du mariage, si je devais le traduire en français, mais c'est pas très drôle, mais je dirais tout ce qui est autour de la cérémonie et du cérémonial qui accompagne le jour du mariage. Donc, ça va être vos fiançailles, ça va être ce qu'on appelle la bachelorette ou le hen, comme ils disent au UK, ça va être le dîner de la veille, ça va être le jour du mariage, la cérémonie, ça va être la soirée du mariage,
le brunch.
Ça va être le brunch, ça va être la lune de miel. Et en fait, moi, mon but et mon rêve, c'est d'accompagner ces femmes de manière évidente et de devenir la référence et la plateforme où justement on peut aller trouver tout ça. Et j'ai pas juste envie qu'elles achètent un produit, j'ai envie qu'elles vivent une expérience vraiment à part entière. J'ai envie qu'elles se nourrissent de ça et qu'elles se sentent justement dans une espèce d'univers, de cocon, de bienveillance où elles vont pouvoir vraiment avoir accès à tout. Donc ce serait avoir accès à des pop-up où elles peuvent venir se faire coiffer, maquiller pour justement trouver des inspirations pour le jour de leur mariage, ça va être pour trouver leur look, ça va être voilà, tout cet accompagnement unique qui va pas que s'arrêter au jour J. Et justement, j'ai envie de les faire voyager comme quand on crée des collections croisières et qu'on fait ça dans des destinations à chaque fois assez magiques. Justement, on a envie de rendre le voyage comme partie intégrante de notre ADN. Voilà, justement, cette évasion, ce rêve, etc., etc. Donc, c'est pas juste « Ah, j'ai une cérémonie, j'ai une église, hop, je vais chez Rima Odaki. » Non, c'est vraiment, j'ai envie d'étendre ce rêve à justement toutes ces cérémonies, tous ces moments clés de sa vie où elle vit l'amour dans ces moments.
Dans tous ces états.
Exactement.
Rime, pour terminer, j'ai un crible. Un crible, c'est les questions que je pose à chaque fois et qui sont des questions, vous allez voir, un peu personnelles. Pas toujours facile, je vous préviens, parce qu'un peu philo, mais en tout cas intéressante, je pense. La première, c'est est-ce que vous avez vécu dans votre vie un grand échec, votre plus bel échec, si je puis dire, dont vous pourriez nous parler, et les enseignements que vous en avez tirés?
Un grand échec, oui. J'en ai vécu deux en particulier. Alors, ils sont un peu liés à ce dont on a parlé tout à l'heure. Fatalement, c'est lié à ce que j'ai vécu en entreprise. On va dire que je me suis mal associée au début de ma société. Je me suis mal associée, autant au niveau des bras droits que de mon DG de l'époque. Et ça a été, on va dire, game changer pour moi, par rapport au fait qu'il fallait toujours que je suive mon intuition et que je m'y réfère et que je me fasse confiance. Parce que j'ai eu des signaux et des indicateurs comme quoi ça le ferait pas. Je l'ai eu et je me suis pas assez écoutée, je me suis pas assez fait confiance. Et j'ai grandi à l'issue de ça. Je regrette rien. C'est ce qui a forgé et façonné la femme et la chef d'entreprise que je suis aujourd'hui. Aucun regret, jamais. Mais ça a été très douloureux. Mais ça m'a fait perdre un peu de temps. Ça m'a fait prendre quelques détours. Mais ça a été évidemment un très grand apprentissage. Pardon.
Bah, et puis sur le fait de s'écouter et de suivre ses instincts, comme vous disiez, qui est quelque chose qu'on nie souvent quand on est entrepreneur parce qu'on se dit « mais j'en sais rien, je suis perdue ». Mais bon, s'il y avait quand même quelque chose à refaire, qu'est-ce que vous referiez différemment? Ça peut être personnel, professionnel, peu importe.
S'il y avait quelque chose à refaire, je pense que j'essaierais d'aborder... je pense que je m'associerais avec mon conjoint plus tôt. Je pense qu'on aurait... Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui disent « Oh là là, travailler en couple, mon Dieu, quel enfer !» Alors, je ne vous dis pas que ça a été facile, hein, loin de là. Ça l'est toujours pas, mais c'est passionnant et c'est vibrant et je pense qu'on aurait. Alors je dis pas qu'on aurait changé les choses, on aurait été plus vite parce que peut-être qu'on aurait fait des erreurs, mais je pense que on aurait été, on aurait créé plus de magie encore ensemble.
Qu'est-ce que vous trouvez beau? Qu'est-ce qui vous émeut?
Mes enfants, leur fraîcheur, leur amour inconditionnel. Leur candeur et les pépites, les phrases qui nous sortent au quotidien, chaque jour, c'est merveilleux.
À l'inverse, Rim, qu'est-ce qui vous irrite? Est-ce qu'il y a des choses dans la vie que vous supportez difficilement, que vous ne trouvez pas acceptables, qui vous irritent?
L'arrogance. J'ai beaucoup de mal. L'arrogance et l'esbrouf. C'est deux choses qui me mettent en colère même. Ouais.
Est-ce qu'il y a une cause qui vous tient à cœur?
Absolument. La cause animale, c'est quelque chose qui me tient énormément à cœur depuis toujours.
Ouais, j'ai vu d'ailleurs que vous étiez très vigilante à n'avoir que des vêtements qui sont cruelty-free.
On n'est pas les best in class, mais c'est vrai qu'on essaye toujours d'avoir une empreinte et d'être conscient à ce niveau-là.
Est-ce qu'il y a une maxime, une citation qui vous tient à cœur, que peut-être vous pourriez partager avec nous? Je ne sais pas, une phrase que vous répétez de temps en temps, un peu votre petit pep talk à vous, quoi.
Il y en a une que j'aime beaucoup, que j'ai lu il y a pas longtemps d'ailleurs. Préférez toujours l'étoile qui vous guide au soleil qui vous brûle. C'est une phrase
Préférez toujours l'étoile qui vous guide au soleil qui vous brûle.
C'est un petit peu lié à ce que je viens de dire avant. C'est plutôt se fier à son intuition et son instinct plutôt qu'à l'esbrouf ou les paillettes ou ce qu'on voit, ce qui est visible devant vous et on va dire la flatterie, toutes ces choses-là. Voilà.
Je comprends. Alors là, j'ai ma question non poétiquement correcte, que j'aime beaucoup, je vous préviens. Est-ce que vous avez une croyance qui est controversée? Autrement dit, vous constatez en lisant la presse, autour de vous, socialement, peut-être en France ou ailleurs, hein, que vous avez quelque chose sur lequel vous n'êtes plutôt pas d'accord avec le public?
Alors, j'espère que je vais pas me faire des ennemis avec ça. Oui, j'en ai une. Elle est assez récente, à vrai dire. Je dirais que c'est le fait de suivre les tendances quand il s'agit d'inclusivité. Je trouve que ça a été un sujet qui a été beaucoup rapporté, beaucoup évoqué ces derniers temps, encore plus depuis 2 ans. Et c'est quelque chose c'est un sujet qui m'a particulièrement chagrinée, voire mis en colère par moments. Parce que j'ai vu que ce sujet d'inclusivité, il était souvent mis sur le tapis pour répondre à une pression des social media, une pression de la société, la peur du jugement du consommateur, plutôt que de le faire par réelle conviction ou parce que vraiment ça répond aux valeurs d'une marque. Et donc aujourd'hui, on va voir... alors c'est sûr, hein, maintenant il y a de l'inclusivité partout, mais j'ai l'impression qu'on le fait pour le faire. C'est « oh là là, on a peur de se faire lapider sur les social médias, oh là là, bah donc je vais mettre en scène telle personne, et puis telle ethnie, et puis telle physionomie, etc. » peu importe si ça fonctionne avec les valeurs de ma marque et tout ce que j'ai pu véhiculer et prôner depuis des années, voire des décennies.
Il n'y a pas de profondeur et il n'y a pas d'honnêteté, quoi.
Exactement. Et d'ailleurs, là, j'ai vu qu'il n'y avait pas très longtemps, enfin là, il y a 2 semaines, tout le monde s'est érigé dans la Fashion Week de New York et de Londres comme quoi la maigreur était de nouveau revenue et qu'il y avait beaucoup moins d'inclusivité que l'année dernière. Mais il n'y a rien d'étonnant. Il n'y a rien d'étonnant parce que les gens l'ont fait par souci ils se sont souciés de ce qu'allaient penser les consommateurs. Donc, ils ont répondu à ce qu'on va dire un buzz, un effet de mode, un effet d'opportunité. Donc, ça a joué même pas 2 saisons. Et puis maintenant, on est back aux mauvaises habitudes. Donc, Voilà, c'est quelque chose qui me chiffonne, qui me met en colère, qui m'énerve, que je trouve fondamentalement hypocrite, voire humiliant aussi, pour justement ces gens qui sont désormais inclus. Pour moi, l'inclusivité, c'est pas ça. L'inclusivité, c'est l'authenticité et c'est d'être en ligne avec qui on est, ce qu'on a envie de raconter et si ça fait sens avec la collection et les valeurs de votre marque.
Rim, je vous remercie d'avoir partagé ça parce que je vous rejoins et je pense que l'honnêteté, l'authenticité, c'est plus facile à dire qu'à faire. Et la preuve, donc c'était je trouve très inspirant. Un sujet sur lequel vous avez changé d'avis.
Un sujet sur lequel j'ai changé d'avis, ma vision de l'échec en général.
Qu'est-ce que vous voulez dire?
Finalement, en fait, le mot échec, il n'existe pas. Pour moi, échouer, c'est se retrouver dans une posture vraiment inconfortable. Et en fait, c'est rien de plus qu'une opportunité incroyable de revoir sa stratégie.
Voir le positif partout.
Exactement. Donc en fait, je trouve ça au final merveilleux. Ouais, je pense que peu importe le succès que vous aurez, il va se nourrir de vos erreurs, de vos échecs. Peu importe la taille de votre succès, avant, pendant, après, même quand une boîte est petite, moyenne ou plus grosse, je trouve que les échecs, c'est au final, c'est douloureux mais c'est merveilleux. C'est une opportunité de revoir sa stratégie et de grandir et de rebondir et de revenir encore plus fort.
Mais avant, vous n'aviez pas cette croyance.
Non, pas du tout. J'en avais honte même de l'échec. Pour moi, c'était quelque chose de... Enfin voilà, c'était impossible, inconcevable à envisager ou appréhender. C'est visible, mon Dieu, qu'est-ce qu'on va dire et l'opinion des autres aussi, au regard de ça, ça me touchait beaucoup. Qu'est-ce que les gens pensent de moi et de mon échec et du fait que voilà, je n'ai pas été à la hauteur. C'est quelque chose qui était très dur à accepter pour moi. Mais aujourd'hui,
vous trouvez... Vous sentez que vous êtes libéré avec l'entreprise, justement, du regard des autres?
Complètement.
En partie, hein, parce que...
Complètement. Alors, je dirais pas que c'est pas quelque chose que je travaille pas au quotidien. Je suis obligée de le travailler constamment parce que, fatalement, quand on est créateur, on est un peu égocentrique, un peu narcissique, n'est-ce pas?
Puis sous le feu des projecteurs aussi, quand même.
Oui, tout à fait, n'est-ce pas? Donc, il faut qu'on soigne ça et qu'on se dise, attendez, redescends là. Et voilà, c'est pas grave. C'est pas grave si on critique, c'est pas grave si... Si ça marche pas, c'est pas grave si cette fois tu t'es planté. Voilà, maintenant regarde-toi et grandis et change quelque chose. Il y a quelque chose que tu as du mal faire ou que tu as dû négliger. Voilà, faut avoir beaucoup de recul sur soi et beaucoup d'autocritique et même un peu de dérision. Parfois, faut en rigoler. Hein.
Voilà. <C'est bon. rire> Complètement. Est-ce qu'il y a un message ou une phrase ou deux d'ailleurs que vous aimeriez faire passer à l'audience parce que c'est des messages, des valeurs qui vous tiennent à cœur, peut-être pour résumer un peu cette conversation?
Ne jamais oublier d'où on vient. Ça, c'est quelque chose qui est propre à tout ce que j'ai pu faire dans ma vie et accomplir, autant au niveau humain que au niveau business. C'est jamais ne pas oublier d'où tu viens. C'est quelque chose qui doit t'animer constamment et te faire garder cette petite flamme au fond de toi pour toujours garder la passion, mais aussi l'humilité et la sagesse, quoi. Ne rester calme, ne pas s'emballer quand ça va trop bien, ne pas paniquer quand ça va trop mal. Voilà, toujours rester calme, rester centré. Voilà.
Merci, Rim. Enfin, dernière question, est-ce qu'il y a un ou des livres, ou ça peut être des objets culturels aussi, films, musique, etc., parce que vous m'avez dit que vous aimiez beaucoup la musique, qui vous ont particulièrement marqué, qui vous ont peut-être fait changer, enfin, qui font que vous êtes Rim à Rodaki?
Oh là là, ça c'est un sujet pour lequel je pourrais parler des heures, donc c'est abominable de résumer ça en 3 ou 4 phrases. Parce que je me nourris de ça au final constamment et vraiment tout le temps. Alors livre, le premier livre qui m'a marqué adolescente et qui est resté, qui a été assez impactant pour moi, c'est Lolita de Vladimir Nabokov. Pour son côté très controversé mais tellement sensuel et subtil et beau que ça m'a bouleversée et la dualité des personnages et même de Lolita elle-même ou de son prédateur, hein, si on veut le voir comme ça, mais de son amant, c'est quelque chose que j'ai trouvé à la fois bouleversant, passionnant, transgressif et en même temps provocateur à souhait. J'ai adoré. J'ai adoré autant le film d'ailleurs, les films même, parce qu'il y a eu 2 versions, que le livre. Et je crois que ça a façonné aussi un peu ma vision de cette femme désinvolte, enfant, ingénue et en même temps un peu mature avant l'heure. Il y a 24 heures dans la vie d'une femme. Ça, c'est un livre qui m'a bouleversée aussi pour son côté non politiquement correct. Il y a toujours un peu de ça dans les.
Mais je vois ça. En plus, il est très court à lire de mémoire, Stefan Zweig.
Très court à lire, ouais, très très court à lire. Et puis raconté par l'homme qu'il aime. Et donc, on a envie de détester cette femme, mais en même temps, on s'attache à elle. Parce que voilà, c'est 24 heures dans sa vie. Et pareil, je trouve que ça évoque, c'est très imagé, ça évoque tellement de choses. Et voilà, moi qui m'inspire toujours des femmes, je trouve que c'est un livre assez magique de ce côté-là. Quoi d'autre? Les livres de Fitzgerald aussi. Je suis assez visuelle en fait, donc j'ai toujours besoin de. Je vais pas être trop branchée roman d'historien ou biographie ou quoi. Ça va être vraiment. Il faut que ce soit romanesque, romancé, qui voilà, des images qui me viennent. Et Fitzgerald, ce que j'adore, c'est justement cette Amérique décadente, mais très sophistiquée et très belle. Enfin voilà, on imagine les costumes, les décors, la musique, tout ça. Donc j'adore son univers. Et après, bah. D'un point de vue plus spirituel, parce que ça m'a aidé à grandir en tant qu'individu et voilà, j'ai essayé de faire ce travail au niveau de mon âme. C'est plus les ouvrages de Paulo Coelho. J'adore tout ce qui est lié au cosmos, au destin, à l'univers. Voilà, c'est quelque chose qui me parle et je trouve qu'il a un regard sur ça qui est vraiment très beau. Et voilà, tout ce qui est lié au voyage de l'âme et au cosmos, ça me fascine.
Voilà. Merci Rim pour tous ces moments, pour tout ce que vous avez partagé avec nous. Si on veut vous retrouver, ça se passe un peu partout. Ça se passe sur le site, déjà, Rima Rondeki, que je mettrai dans les liens, bien sûr. Instagram, of course. Et vous, à titre plus personnel, on vous retrouve aussi... Est-ce qu'on vous retrouve sur LinkedIn? J'ai un doute.
Oui, on est sur LinkedIn, bien évidemment. On a un profil de société. Et on est très actifs sur LinkedIn. Instagram, la bonne nouvelle, c'est que c'est la plateforme où on va dire que je suis la plus disponible et accessible parce qu'on est, enfin, j'ai quelqu'un qui m'accompagne pour gérer tout ce qui est graphisme et contenu, mais c'est moi qui le gère au final.
D'accord.
Et donc, du coup, bah, c'est là qu'on.
Donc, on parlera à Rim direct.
Exactement, totalement. Alors, ils ont accès aussi, surtout sur la partie SAV, mais sur la partie plus personnelle, inspirationnelle, c'est moi qui suis derrière la plateforme. Et ensuite, bah, j'ai récemment ouvert mon salon couture dédié aux créations sur mesure le 1er janvier. Donc voilà, maintenant si vous avez envie de créer votre robe sur mesure de A à Z avec moi et mon atelier, mes premières d'atelier, ça se passe au 29 Avenue Hoche.
C'est ça, Avenue Hoche. Je regrette d'ailleurs de ne pas avoir pu faire l'interview avec vous sur place, mais j'étais pas à Paris. Mais j'espère bien pouvoir venir vous voir,
avec
il paraît
plaisir.
Que c'est magnifique.
Merci,
et petite
merci.
Dédicace à Jérémy qui nous a fait cette introduction que je remercie.
Une immense dédicace à Jérémy grâce à qui ce podcast a eu lieu et qu'on adore. Voilà.
Merci à vous, Rim.
Merci à vous, Pauline. À bientôt.
Bye bye les amis, c'est la fin de cet épisode, mais avant de vous quitter, quelques détails en plus. D'abord, pour toutes les infos sur le podcast et cet épisode, ça se passe sur paulinegno.com, vous aurez tout promis, juré. Aussi, si vous souhaitez me contacter pour me poser des questions, me proposer de nouveaux invités, eh bien n'hésitez pas à le faire directement sur LinkedIn, Instagram ou YouTube, je vous attends. Enfin, encore mille merci de m'avoir écouté jusqu'ici, j'espère de tout cœur que ça vous a plu et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.